Nous enchaînons à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité financière, économique et parfois politique également dans Smart Bourse. Ce soir, pour décrypter les aléas de la planète marché, nous avons le plaisir de recevoir trois experts en plateau. Nous sommes tout d'abord accompagnés par Vincent Juvins. Bonsoir Vincent Juvins.
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth.
Bonsoir Nicolas.
Directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Et enfin, Adrien Dumas nous accompagne également. Bonsoir Adrien Dumas.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes directeur des investissements de Mandarin Gestion. Je vous propose de commencer avec vous, Vincent Juvins. On commence par l'Europe. C'est le sujet qui anime de toute façon la planète marché tous les jours depuis 15 jours en ce moment. Peut-être commencer par cette dette française. Alors, on a vu effectivement cet écartement des spreads depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. On avait pris une sorte de rythme de croisière depuis une quinzaine de jours à 70 points de base. On voit une légère tension supplémentaire. On arrive à 80 points de base aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue là? C'est le scrutin qui se rapproche, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin.
On sent un petit peu de nervosité à l'approche du premier tour. Évidemment, il y a eu des commentaires des différents candidats qui sont venus finalement alimenter les spéculations des marchés. On avait finalement fort peu d'éléments tangibles que pour finalement établir des scénarios économiques budgétaires que pour déterminer le coût juste
bien sûr,
de la dette française. Aujourd'hui, les marchés, en tout cas, ont des précisions sur les programmes respectifs et on voit que ça se reflète avec une certaine nervosité. On a passé un cap aujourd'hui, on est au-dessus des 80 points bases. Quelque part, moi, je m'attends à ce que cette tension perdure et à ce que le spread, potentiellement, monte encore.
Plus on a d'infos sur les programmes économiques, plus le spread se tend, si je comprends bien.
Bah, le peu qu'on en a eu pour l'instant, et quel que soit le parti ou la coalition, en question, on a quand même, a priori, des dépenses supplémentaires. À l'heure où l'Europe l'a exprimé la semaine dernière, on attend plutôt de la consolidation budgétaire. Ouais. À l'heure où on avait déjà cet espoir d'une certaine consolidation budgétaire, attention, je ne suis pas un excité de l'orthodoxie budgétaire, mais on a quand même une situation budgétaire en France qui le demande. Il faut retourner dans les clous, en tout cas budgétaires de Bruxelles, de la Commission européenne. Tout ce qui s'en écarte, évidemment, alimentera la nervosité des marchés financiers. Donc il faudra là qu'on puisse les convaincre qu'on aura pour l'an prochain 20-30 milliards d'économies qui seront réalisées pour le budget 2025.
Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour à la normale post-élection sur le marché obligataire et sur la dette française, ou est-ce qu'il faut justement accepter cette idée que la France empruntera un petit peu plus cher dans les prochains mois, voire les prochaines années?
Alors tout est possible, évidemment il faut évoquer ce sujet avec beaucoup d'humilité. À la fois je pense qu'on a tous une certaine anxiété dans cette perspective des élections qui arrivent et des risques potentiels d'avoir finalement des coalitions qui aient justement une approche budgétaire pas en phase avec ce qu'attend la Commission européenne, pas en phase avec ce qu'espèrent les marchés. Cela étant, on a des précédents qui sont plutôt là pour nous rassurer. On évoque beaucoup le cas de l'Italie et de Giorgia Meloni, qui avait fait beaucoup peur aux marchés financiers lors de son arrivée. Le spread de l'Italie était remonté jusqu'à 250 points base lorsqu'elle était arrivée. On a vu ce spread retomber jusqu'à 130 en début d'année. On est remonté légèrement. Et donc là, les marchés avaient été rassurés. En France, on a des précédents également. Rappelons-nous 2012, arrivée de François Hollande. Les marchés avaient également, à l'époque, été particulièrement inquiets d'un programme budgétaire qui pourrait là aussi être trop laxiste de leur point de vue. Le spread de la France était monté à 150 points de base à l'époque, dans un contexte de crise de la dette plus générale. Quelque part, moi, si je devais regarder un petit peu des seuils potentiels de stress, ce serait potentiellement retrouver ces 150 points bas qu'on avait eu à l'époque. Ce serait peut-être retrouver un peu des 250 sur l'Italie, puisque derrière aussi la France, ne l'oublions pas, il y a quand même un contexte européen qui est difficile, notamment des pays comme l'Italie, comme la Belgique, où on a quand même une situation budgétaire qui ne sont pas idéales dans un contexte où la croissance est positive. Donc là, c'est vraiment le moment où il faut délivrer cette consolidation budgétaire pour se préparer à des années peut-être un peu plus difficiles.
Et c'est pas le message envoyé aujourd'hui, si je comprends bien.
Et c'est pas le message. Alors bon, j'entends bien évidemment que c'est plus facile pour un économiste de l'évoquer que pour un homme politique. C'est pas très
bien sûr,
ou une femme politique d'ailleurs. Mais enfin, c'est en tout cas ce que les marchés regarderont dans les jours et les semaines à venir.
Pierre Bismuth, on va continuer avec vous. Je vais vous poser la question un peu différemment. On a tendance effectivement à comparer cette séquence en France avec l'arrivée de Meloni effectivement en Italie, l'élection de Trump aux États-Unis qui avait fait peur et finalement les marchés s'en étaient accommodés. Je mettrais peut-être un tout petit, je rajouterai peut-être une toute petite information là-dedans. On a l'impression quand même que, contrairement à Trump ou à Meloni qui s'attendaient potentiellement à être élus, le Rassemblement National, on n'est pas là pour faire de la politique mais pour faire du financier, j'y arrive, semble un petit peu surpris d'un coup d'un seul de cet élan, au point qu'il en est à détailler son programme politique ou en tout cas économique dans les derniers jours. Est-ce que c'est vraiment la même séquence qui se joue que ce qu'on a pu voir en Italie ou ailleurs ?
Non, je pense pas du tout. Alors, en fait, on va essayer de ne pas faire de politique, mais c'est vrai qu'on a eu, on a tous vu un débat mardi où on a des forces en présence qui manifestement expliquent le classement PISA de la France, puisque on a l'impression que plus personne ne sait compter. Et c'est vrai quand on, et je comprends que les marchés stressent, et moi je trouve que c'est un problème cette dette française dont le spread s'écarte, c'est que effectivement, je suis assez d'accord avec vous, on a deux blocs qui ne s'attendent pas du tout à gouverner et donc qui ont des propositions qui, malheureusement, mathématiquement, mais déjà économiquement, mais mathématiquement, ne tiennent absolument pas la route. Et c'est bien pour ça que les marchés financiers stressent un peu sur ce qui peut advenir après les élections. Et c'est vrai que c'est pas un signal formidable d'envoyer. On a vu des flottements sur la réforme des retraites. On a vu qu'il y a quand même une réforme symptomatique, et je dis bien symptomatique, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
Bien sûr.
Mais pour essayer de créer des conditions économiques qui favorisent finalement le retour à l'emploi de plus grand nombre de personnes. C'est vrai que quand on voit le flottement qu'il y a eu pendant le débat, pas étonnant que la dette française crispe.
Parce qu'on l'a connu en Europe, cette opposition farouche justement à l'Union européenne et cette surprise presque de ceux qui défendaient cette idée de sortir de l'Europe, c'était le Brexit. On a vu d'ailleurs que les pourfendeurs de l'Europe n'ont pas forcément géré la suite pour la plupart, puisqu'ils étaient eux-mêmes surpris d'avoir gagné quelque part. Est-ce que c'est plus une séquence comme ça qui est en train de se jouer en France aujourd'hui ou faut quand même remettre ça dans un contexte français?
Moi, je crois que plus globalement, en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est une nouvelle fois une déception à venir. Et en fait, c'est ça. C'est qu'à force d'avoir des programmes qui ne sont pas soutenables, et on voit bien, même dans le camp présidentiel, annoncer de nouvelles dépenses alors qu'on était plutôt sur une réduction des
bien
dépenses
sûr,
publiques,
oui.
c'est pas forcément une très belle information à envoyer à nos partenaires européens. Mais la déception ne peut qu'arriver parce qu'avec une dette publique telle qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas les marges de manœuvre qu'on pourrait avoir si on était même du temps de François Mitterrand. Et donc, je pense que c'est là aussi, si on essaye d'aller à plus long terme, on est sûr et certain que des déceptions vont advenir. Et ces déceptions, on a vu que la population en France pouvait avoir des réactions épidermiques. Je pense que c'est ça qui inquiète aussi beaucoup. C'est comment ces déceptions vont être gérées dans le futur.
Déceptions vis-à-vis de promesses de campagne de toute façon ne pourront pas être tenues demain.
Ah oui, absolument, oui.
Donc, avec cette idée, je caricature peut-être...
Désolé d'être aussi franc, mais... malheureusement, si on fait des maths, ça ne boucle pas.
Mais en même temps, on voit un spread un spread franco-allemand qui s'écarte, donc ça veut dire que il y a quand même une marge de manœuvre pour le futur gouvernement en place pour mettre en place des dispositifs qui plairaient pas forcément au marché. Il y a quand même cette inquiétude aujourd'hui sur les marchés.
Il y a cette inquiétude, mais en fait, on a vu ce qui s'était passé, des programmes très laxistes. Alors moi, je pense à 81, où finalement, on a eu la rigueur en 83. Et à chaque fois, c'est un peu la même chose. C'est qu'on promet énormément de dépenses. Ces dépenses peuvent être faites et ne pas délivrer ce qui a été promis. On peut avoir beaucoup de dépenses. Bah, d'ailleurs, on l'a vu avec la crise du Covid. On a eu une explosion de la dette publique française. Et pourtant, on a plutôt des Français qui sont malheureux dans leur globalité, puisqu'on voit que le bloc de gauche est à 29%, le bloc droite dure extrême est à 36%. Donc on voit bien que malgré des dépenses publiques somptuaires, on a plutôt 60, les deux tiers des Français, en tout cas de ceux qui pensent aller voter, qui sont plutôt mécontents de la situation. Donc c'est pas parce qu'on annonce des dépenses absolument hallucinante que déjà on va contenter les gens parce qu'il faut diviser par 66 millions de personnes, hein, c'est idiot, mais c'est vrai que quand on annonce plein de milliards, au final,
bien sûr,
on divise,
oui.
Il y a moins pour chacun, c'est plus des milliards. Et à quoi ça va servir? Est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que finalement c'est des dépenses courantes qui ne vont pas du tout préparer l'avenir? Et là, je pense que quand on a un environnement politique aussi incertain, et oui, on est dans une économie européenne et on voit que le CAC 40 affiche 8% de retard sur les principaux indices boursiers européens. On a un spread qui s'écarte. on a des dynamiques qui sont vraiment pas favorables à la France. Et malheureusement, je pense que, à la différence de Vincent, je pense qu'on a, on a probablement créé un nouveau floor sur le spread. C'est que 2024, c'est une chose, mais que va-t-il arriver en 2026? C'est les régionales et les municipales. En 2027, on est de retour en élection présidentielle. Et en fait, si c'est pas ce coup-ci, qu'est-ce qui va se passer en 2027? Donc je pense vraiment qu'on a constitué un floor. C'est que là, les promesses sont belles, mais ça va être difficile de délivrer.
Adrien Dumas, que dire par rapport à tout ce qui a été dit sur la situation actuelle? C'est vrai que on lit quand même beaucoup de deux avis assez tranchés. Il y a ceux qui disent le marché a pas encore pricé le pire, ça peut être bien pire, et ceux qui disent bon, globalement, de toute façon, les programmes ne pourront pas être appliqués. Donc c'est pour ça qu'on reste dans une analyse assez modérée finalement aujourd'hui financièrement.
Oui, c'est sûr. Après, on est dans une période un peu charnière. On a des indicateurs économiques en France qui étaient quand même déjà pas très bons, qui ont commencé un peu à se retourner. Les PMI étaient un peu décevants ces derniers mois. On rajoute à ça, effectivement, au-delà du sujet de la rigueur, ou en tout cas du côté dépensier, des enjeux à court terme de dépenses et d'équilibre qui sont importants. On a par-dessus ça, effectivement, un sujet toujours de maîtrise de l'inflation, parce que la grande vague dépensière, elle est surtout, en fait, quand on regarde dans les programmes, hein, pour lutter toujours encore contre le sujet de l'inflation et pour des sujets de pouvoir d'achat. En fait, on ne fait que payer retraiter le sujet de l'inflation, qui pour l'instant reste un sujet de préoccupation prioritaire. Donc le scénario du pire, il peut être, à mon avis, bien plus pire. C'est-à-dire que la dégradation du sentiment économique en France peut être importante. On peut avoir pendant 3-4 mois des hésitations sur l'orientation politique et économique qui va ralentir économiquement la France. D'inflation qui, pour l'instant, est peut-être un peu sous contrôle. La trajectoire des inflations est toujours bonne, mais l'euro résiste bien pour l'instant, ce qui limite un peu le risque d'inflation importée. Mais il faudra surveiller ça aussi.
Mais pour bien comprendre, ça veut dire que le
nuage, quand même, a tendance un peu à augmenter et à s'accumuler.
Un résultat électoral dans 10 jours d'un extrême ou d'un autre pourrait avoir dans la deuxième économie de la zone euro un impact sur une stratégie de désinflation en Europe, voire sur l'économie européenne, ou ça reste quand même un risque très franco-français?
C'est un risque de propagation sans doute, hein. Le poids de l'Europe dans l'économie européenne est quand même important. Ce qui est sûr, c'est que le sentiment économique, aujourd'hui vous êtes une entreprise, vous hésitez à faire un investissement, vu le peu de visibilité que vous avez sur le cadre fiscal, le cadre d'investissement, les priorités les priorités stratégiques ou ce qui va être mis en place dans les 4 à 6 prochains mois, là vous préférez attendre. Ça va forcément à terme, à court terme, avoir un impact sur la dynamique économique. Donc si on rentre dans ce scénario d'un dynamisme économique, alors qu'on était tous dans un momentum de surprise économique depuis quasiment 8 mois, très positif en France et particulièrement en Europe, et que ça s'essouffle, l'objet de la rigueur, il devient d'autant plus important, et le risque de stagflation peut revenir assez rapidement. Donc oui, le scénario peut être assez compliqué.
Un pays comme le Portugal qui emprunte à des conditions presque plus avantageuses que la France aujourd'hui, s'observe, ça inquiète.
C'est les réalités de pays qui ont, peut-être réfléchi plus en amont et sous pression post-2011 à la rigueur et à réformer un peu plus en profondeur leur économie. Donc les divergences sont très très fortes. Hein. Quand on repense à la constitution des pays périphériques de 2011, et les situations ont quand même été grandement inversées. Hein. La France est le pays dont la dette sur PIB a le plus évolué depuis le Covid. C'est l'endroit où, effectivement, la géographie, on a mis le plus d'argent sur la table pour faire face au Covid. Aujourd'hui, on a effectivement rattraper en termes de dette sur PIB beaucoup de pays, est dépassé, et donc des sujets sur la dette qui sont tout à fait légitimes.
Il y a un risque à ce que la France devienne rentre dans cette catégorisation de pays périphériques comme
Elle l'est, puisque
elle l'est,
quasiment. En tout cas, aujourd'hui, le spread a tendance à le montrer. Oui.
Vincent Juvins, la France fait partie des pays périphériques aujourd'hui, deuxième économie de la zone euro quand même.
Moi, j'irai pas encore jusque-là, et évidemment, on regarde encore un peu extérieur sur ce qui s'y passe, et c'est légitime. On est toujours un tout petit peu plus critique par rapport à la situation de son propre pays, et c'est normal. Attention, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être évoqué. Hein. La situation est quand même pas très encourageante. Néanmoins, je mettrai quand même en exergue que la France, ces dernières années, avait quand même réussi à bien se repositionner en Europe, avait quand même montré de très bons chiffres de croissance. C'était une terre d'investissement. La banque que je représente modestement sur ce plateau en est l'exemple. Beaucoup d'institutions bancaires, beaucoup d'entreprises sont venues investir produire en France, sont venus créer de l'emploi, certainement dans un contexte post-Brexit. La stabilité politique qu'on a eue ces dernières années en France a été vraiment particulièrement favorable pour cet investissement. On a une France qui reste relativement dynamique sur le plan démographique, on a une France qui reste relativement dynamique en termes de productivité. Alors bon, tout ça s'effrite, hein, et on parle toujours du passé qui est évidemment meilleur, mais enfin,
bien sûr,
comparé aux Anglais, comparé aux Allemands, on a quand même toujours géré une bonne histoire sur ce point de vue-là. Donc on a un potentiel. Nous, chaque année, on réalise des perspectives à 10-15 ans en termes de croissance économique pour la plupart des pays de la zone euro. La France continue à relativement bien se défendre du fait de cette démographie relativement dynamique et de cette productivité relativement dynamique. Donc, elle a heureusement, je dirais, cette inertie dont elle peut bénéficier aujourd'hui. Il ne faudrait pas casser la machine. Derrière, il y a des inquiétudes par rapport à une politique budgétaire qui sortirait la France des rails budgétaires tels que proposés par Bruxelles. Il y a aussi le fait que la France soit tout d'un coup moins attractive pour y investir. Ça, c'est un autre sujet. Il ne faudrait pas que ce mouvement qu'on a eu récemment change à un moment où beaucoup de pays dans le monde essaient justement d'attirer ces capitaux, ces investissements, oui, notamment pour se réindustrialiser et ainsi de suite. On a vu quand même que ça a bien fonctionné ces dernières années. On
et ça passe
ce qui est heureux. D'ailleurs, on a un taux de chômage qui est aujourd'hui partout en Europe, et ce, y compris en France, qui est faible. Donc, on aborde potentiellement cette crise un petit peu existentielle sur le plan politique dans une situation relativement solide économiquement. C'est ce qui me fait être relativement serein. Maintenant, oui, on va pas vers un mieux. Maintenant, on peut toujours en évoquer le cas de Giorgia Meloni. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Italie est relativement bien perçue par les marchés financiers, c'est que, et je cite ma collègue qui fait le même job que moi en Italie, c'est que Giorgia Meloni est parvenue à créer cette stabilité politique qui avait fait à défaut en Italie pendant tant de temps.
Bon, oui, parce qu'elle arrivait
évidemment
après,
qu'en France, si on se dirige vers un contexte de cohabitation, c'est la période d'instabilité, comme tu l'évoquais vraisemblablement encore jusqu'en 2027, et que là, on ne l'aura pas.
Cet état de grâce est sorti d'un état d'instabilité, voilà. Justement, contrairement à la France qui était plus ou moins
dans une situation stable. Le parallèle avec l'Italie a, je dirais, ses limites, puisque là, on sait que potentiellement, on est au moins dans les difficultés ou l'incertitude jusqu'en 2027. Ça, c'est une certitude. Et à plus court terme, il y a une échéance qu'il faut absolument rappeler. C'est qu'on a une procédure de déficit excessif qui vient d'être ouverte à l'encontre de la France, comme de l'Italie, comme de la Belgique notamment, que d'ici l'automne, il faut que le nouveau gouvernement propose évidemment des mesures correctives. Les marchés y seront particulièrement attentifs.
Est-ce que ça peut venir jouer un rôle de garde-fou vis-à-vis d'un nouveau gouvernement, cette procédure ?
On parle en jargon financier des bond vigilants. C'est vraiment les marchés obligataires qui veillent au rein. Et bon, je pense qu'à un moment, on l'a vu par le passé, dès lors, si le spread devait être à 150, 200 points base, je pense que ça ramènera évidemment beaucoup de gens à la raison. Puisque ce qu'on ferait d'une part sur le plan budgétaire, partirait en fumée d'autre part en coût de financement plus élevé. Et on dépense déjà en Europe tellement d'argent en charge d'intérêt, 2% du PIB en moyenne, c'est un gâchis. Et moi je dis souvent, et là encore une fois sans faire de politique, aujourd'hui à ceux qui veulent défendre le modèle social français, à ceux qui veulent défendre la souveraineté française, il y a la même réponse dans les deux cas. Finalement, c'est de rester dans les clous budgétaires européens. C'est la meilleure manière de défendre ces deux aspects, paradoxalement.
Il y a les marchés, il y a la France dans les marchés financiers, mais il n'y a pas que la France, Pierre Bismuth. Il y a l'Europe déjà, et il y a une stratégie menée par une banque centrale, la Banque Centrale Européenne, première baisse de taux, la première à avoir dégainé vis-à-vis de la Fed, bien sûr, les deux principales qu'on regarde en Europe. Et il y a cette idée que potentiellement une deuxième baisse de taux pourrait intervenir d'ici la fin de l'année, au-delà du risque politique français, ou peut-être que le risque politique français peut avoir une incidence sur le sujet. Votre scénario à l'heure actuelle sur l'économie européenne?
Alors moi je suis très dubitatif, vraiment très dubitatif, notamment sur cette baisse de taux d'intérêt de la BCE qui...
Déjà actée, réalisée.
Ouais, oui, déjà réalisée, parce qu'en fait, moi ce qui me posait problème dans cette baisse c'était la stratégie ultérieure. Et effectivement j'ai trouvé que la stratégie ultérieure était bien mince, et c'est pour ça que ça a pas fait grand chose, notamment eu égard à ce qui s'est passé aux élections européennes. Puisqu'en fait, le séisme provoqué par les élections européennes en France a provoqué vraiment une chute, mais alors dramatique, des small caps françaises. Puis on a perdu par rapport au 7 juin 13%.
D'accord.
Qu'on avait gagné enfin en mai, il y avait eu un ouf de soulagement, et en fait, ça s'est vraiment effondré, bien plus que le CAC 40. Donc c'est là, on voit que les dommages de la politique française, c'est vraiment sur les small caps, bien plus que sur les groupes internationaux, qui finalement ont peu à faire de l'économie française.
Donc c'est sur celles qui font leur chiffre d'affaires en France.
Exactement. Donc les small caps vraiment ont tremblé. On a vu que la baisse des taux de la BCE n'avait pas du tout vivifié le marché. Au contraire, ça n'a eu strictement aucun impact. Et le vrai sujet, c'est on aurait aimé que Christine Lagarde dise « voilà ma stratégie ». Parce que l'inflation va rentrer dans les clous, donc je prévois X baisse de taux d'ici à juin 2025. Mais on voit bien que tirer la première, alors que la Fed est finalement on hold, désolé pour l'anglicisme,
bien sûr, ouais.
C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, donc ça n'a pas du tout marché. Je ne suis pas sûr que ça ait fait quoi que ce soit sur
Il y avait quand même deux contextes différents, une nécessité quand même de la BCE d'intervenir un petit peu plus vite pour relancer quand même une économie.
Mais en fait, le
plus fragile.
Bah oui, mais est-ce que ça va. Alors, on va voir si ça va marcher, mais je ne suis pas sûr que 0,25. En fait, disons que 0,25 de baisse, c'est un signal. Mais en fait, un signal pour ne rien dire, ça veut rien dire. Et malheureusement, je trouve vraiment que la stratégie de la BCE a été. En fait, ce n'était pas à la hauteur. C'est qu'on a fait une baisse et puis on n'a pas du tout de plan ultérieur. On s'est dit, on va voir les chiffres et puis on va voir ce que fait la Fed, etc. Et donc, je trouve que ça a quand même nuit à la crédibilité de l'euro, puisque en fait, le dollar a monté dans la séquence. Bien sûr, il y a les élections européennes, mais ça nuit finalement à la crédibilité de l'euro. Je ne vois pas du tout la stratégie. J'attends qu'elle délivre mieux, mais on s'attend à une baisse en septembre, peut-être en juillet, mais quel va être l'impact, je ne sais pas.
Adrien Dumas, finalement la BCE est partie trop tôt.
Elle l'avait beaucoup promis, donc c'était dur de faire sans. Déjà dès le mois de mars, on avait de nombreux banquiers centraux européens qui étaient assez affirmatifs sur « ça sera juin, ça sera juin, ça sera juin ». Donc finalement, les marchés l'anticipant, je trouve que c'était un peu difficile de faire marche arrière, mais je partage effectivement la question de « est-ce que c'était le bon moment ?» Quel était l'intérêt de dégainer avant la Banque centrale américaine et quelle est la situation aujourd'hui? En sachant que, en fonction des différentes composantes, à la fois la trajectoire de désinflation, la situation spécifique de la France, on va dire que les intérêts encore vont être très difficiles à aligner au sein de l'Europe par rapport à l'impact que pourrait avoir une baisse de taux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne le vois pas comme un moteur de performance pour les actifs risqués, là, à court et moyen terme, effectivement. Oublions pas que d'ailleurs, cette baisse de taux a eu peu d'impact sur les taux longs, donc quasiment pas bougé. C'est quand même sur ces sujets-là que les entreprises se financent. Donc, pour l'instant, l'impact est minimal. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Effectivement, je pense pas grand-chose dans le courant de l'été. Côté américain, qu'est-ce qu'on aura comme message avant Jackson Hole? Peut-être pas grand-chose. Est-ce que même Jackson Hole permettra d'y voir un peu plus clair? Je suis pas sûr que la Banque centrale américaine fasse grand-chose dans cette séquence d'élections non plus. Donc la pause, elle est un peu généralisée.
Avant de parler États-Unis. Là, c'était la première baisse de taux de la BCE. Peut-être qu'une deuxième ou une troisième permettrait d'y voir des effets plus conséquents ou...
Je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer effectivement que les taux longs continuent en bénéficient fortement, donc que c'est un impact direct sur les taux de financement de l'économie à court et moyen terme. Le dommage collatéral pourrait être presque plus l'euro qui deviendrait encore moins attractif dans un moment où on se pose déjà la question de la trajectoire des inflations et de l'impact que ça pourrait avoir dans un moment où l'économie européenne qui pour l'instant se portait bien pourrait un petit peu ralentir ou subir les effets de ce qui se passe côté français. Moi, j'ai du mal à le voir, mais on n'aura pas de réponse à court terme, je pense.
Aux États-Unis, demain, on attend effectivement l'inflation suivie de près par la réserve fédérale américaine. Est-ce que là aussi, globalement, c'est plus tellement l'indicateur à suivre jusqu'à septembre, puisque rien ne se passera?
Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même pas mal de secteurs et pas mal d'industries. On commence à avoir des petits signaux un peu d'affaiblissement ou de déception. C'était vrai en Europe. On a eu quand même 5-6 sociétés là, qui ont fait des warnings sur les 10 derniers jours. Je rappelle quand même que le scénario qui était présenté par les entreprises pendant la période de publication des résultats annuels et des premiers trimestres, c'était le T1, le premier trimestre a un peu un point bas, il y a beaucoup de chaînes dans lesquelles on voit une amélioration avec progressivement T2, puis fin d'année, une séquence d'amélioration. Bon, visiblement, il y a quelques industries où ça c'est pas encore visible, voire même le T2, le deuxième trimestre est peut-être moins bon que le premier trimestre. Et aux États-Unis, on a eu un peu aussi ces messages-là dans le résidentiel ou dans l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel. Donc, pour moi, les signaux les plus avancés, c'est finalement plutôt ceux-là que le chômage ou que la trajectoire de désinflation qui, pour l'instant, en fait, est à peu près en ligne avec la trajectoire qui était anticipée. Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à la Fed de changer ou d'infléchir sa trajectoire? Je ne pense pas. Pour moi, demain, le sujet du débat me semble plus important que les statistiques économiques, parce que c'est là où je pense qu'on va voir enfin un petit peu plus qu'est-ce qu'a mis Trump dans quel quartier là, sur quel type de sujet il a envie de s'opposer et où est-ce qu'il va être disruptif, parce que c'est quand même souvent là qu'on l'attend et qu'il nous surprend. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu ça le gros sujet de demain.
Ah bah donc on parlait du risque politique en France. Finalement, la question, c'est y a-t-il un risque politique aux États-Unis, si je comprends bien?
Alors, risque politique, je pense pas. Dans le fond, les deux...
On est déjà passé par là.
Voilà, oui. La relocalisation, America First, je pense que ça reste fondamentalement le cœur des propositions et des programmes. Après, il y a la position diplomatique, il y a le sujet de l'Ukraine, il y a tout ou pas défaire ou détricoter une partie du budget, enfin du plan Inflation Reduction Act, de tout ce qui est autour de la relocalisation. Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de débats. C'est quand même des subventions d'investissement qui ont été beaucoup portées dans des États républicains. Est-ce que Donald Trump ira contre l'avis de la Chambre des représentants et des congrès républicains qui sont plutôt favorables à ce plan? Voilà, il y a beaucoup de questions sur la table. Ça va être intéressant de voir, effectivement, qu'est-ce qui va sortir de sa manche pour être un peu disruptif.
Vincent Juvin, je vous pose la question un peu différemment. Donald Trump, on a connu le Donald Trump candidat, le Donald Trump président, le Donald Trump poursuivi par la justice, le Donald Trump dont on pensait effectivement que jamais il ne pourrait revenir en politique, et demain il y a le Donald Trump qui débat avec Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle, et il n'y a pas de risque politique.
Oui, alors... Vous me demandez de parler de politique,
non,
faire de politique.
Exactement, mais je demande de parler financièrement, bien sûr, réaction des marchés financiers.
En tout cas, bon, la précédente présidence de Donald Trump, qu'on l'aime ou pas, a été moins disruptive que craint à nombre d'égards. Ça, c'est déjà un premier élément. Si on se concentre sur les aspects économiques et financiers, objectivement, entre les deux candidats, il n'y a pas... Sur les grands sujets, il n'y a pas de différence fondamentale. En tout cas, grand sujet, on a beaucoup parlé de politique budgétaire. C'est à peu près le maintien de ce qui se fait maintenant. D'ailleurs, Joe Biden a maintenu les tax cuts de Donald Trump et beaucoup du débat, est-ce qu'on les maintient après ou pas?
Il faut dire que les États-Unis sont quand même dans une situation vis-à-vis de leur budget où, effectivement, il faudrait éviter d'arriver à trop dépenser,
oui,
quand même.
Oui, on peut y revenir. Mais donc, sur cet aspect-là, sur le budget, il n'y a personne qui... C'est comme en France, comme en Europe, on n'utilise pas le vilain mot d'austérité ou de consolidation budgétaire. C'est pas le sujet. Alors, sur les autres grands sujets, finalement, Joe Biden a continué à construire le mur de Donald Trump. Le faut-il pas? Je pense que les deux auront une politique migratoire sélective, mais on ne va pas fermer les frontières. Beaucoup des États qui votent Donald Trump sont bien conscients qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre, et je pense que je ne vois pas quelque chose de disruptif là non plus. Sur la position vis-à-vis de la Chine, les deux partagent globalement à peu de choses près le même positionnement. Et puis, surtout, nous, ce qui nous importe au-delà de tout ça, et sorry peut-être de faire abstraction de plein de sujets de société qui sont importants, mais sur les marchés financiers, on voit que ce qui drive les marchés financiers depuis un an et demi, voire un petit peu davantage, c'est cette technologie américaine, ce mouvement vers l'intelligence artificielle. Et là, finalement, ni l'un ni l'autre n'ont envisagé de faire une politique à la chinoise, à la Xi Jinping, de tuer les champions nationaux. Donc, je dirais, ce moteur de performance dans les portefeuilles devrait a priori rester. Les Américains entendent garder un certain leadership. Je suis même parfois surpris de voir que Wall Street, comme la Silicon Valley, voit d'ailleurs en Donald Trump quelqu'un qui pourrait plutôt les aider aussi en la matière. Donc, voilà, tout ça pour dire que l'un comme l'autre, pour les sujets qui nous intéressent sur ce plateau, bassement économique et financier, ça a l'air relativement similaire. Alors c'est vrai que le budget, c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir à l'œil. Alors, c'est peut-être parce que c'est loin de chez nous, mais je trouve qu'il m'inquiète toujours relativement moins qu'en Europe. Les États-Unis ont un potentiel de croissance nominale qui est quand même largement supérieur, donc ça les aide à payer cette dette. Ils ont une productivité qui est, malheureusement, il faut l'admettre, supérieure à la nôtre, donc ça aide aussi. Le dollar, on veut le déboulonner depuis des années et autres, on annonce sa fin chaque année, il est toujours là et toujours bien présent. Il y a un excès les Américains ont un effet richesse des années. Alors, l'excès d'épargne pendant le Covid, c'est parti. Mais il y a encore un excédent d'épargne, notamment chez les Américains les plus fortunés, qui est immense. Donc, la capacité de ceux-ci à absorber la dette américaine est toujours là et bien là. Ils ont plutôt, d'ailleurs, tendance à être plus présents sur les marchés financiers. Tout ça pour dire que, voilà, en l'état, je ne vois pas quelque chose de disruptif sur le plan économique et financier, et je suis plutôt moins inquiet sur l'aspect dette aux États-Unis qu'en Europe. Et je voudrais peut-être aussi, puisqu'on fait de la politique, je des réponses politiques. Je vais répondre à une autre question que vous ne m'avez pas posée. Mais peut-être pour apporter peut-être un point de vue légèrement différent sur la politique monétaire en zone euro, et là où peut-être des baisses supplémentaires, ou même une baisse supplémentaire pourrait être utile, il y a actuellement en Europe 9 000 milliards d'euros qui sont sur des comptes à terme et assimilés. Et dans le débat européen pour l'instant, il y a toute cette question, comment est-ce qu'on peut utiliser cette épargne des Européens pour l'utiliser au financement de l'économie européenne. Alors, la France a son livret A qui est une bonne approche, hein, les fonds assurance et autres sont des bonnes manières aussi, mais là il y a certainement un travail à réaliser. Et lorsque le rendement du cash
des Européennes, l'union des marchés de capitaux.
Voilà, tout à fait. Le rendement du cash baissant, ça force aussi quand même pas mal d'investisseurs à revenir, se reporter sur d'autres choses. Donc c'est déjà une manière non encadrée de le faire. Alors la France ne l'a pas fait, mais par exemple l'Italie l'a bien fait, et la Belgique aussi, faire appel à l'épargne publique pour financer les émissions obligataires. Alors, ça ne solutionne pas l'ensemble du problème, mais en tout cas, ça donne déjà un signal dans des économies dont l'essentiel de la dette est souvent détenu par l'étranger. L'Italie a lancé quelques obligations, ces BTP Valor qui ont eu un succès important. La Belgique a fait de même avec des bons d'État qui ont d'ailleurs, ça a fait grincer les dents dans le secteur bancaire. Je te dis, ça a évidemment drainé pas mal d'épargne hors des comptes épargne vers ce type d'éléments. C'est peut-être au moment où les taux baissent, en tout cas des structures à préparer. C'est vraiment accompagner cette sortie du cash vers des éléments qui financent l'économie européenne. Et là, la BCE peut donner l'impulsion sur cet aspect-là.
Pierre Bismuth, si je reviens sur les États-Unis, que vous suivez de près en tant qu'investisseur, quand on veut investir aux États-Unis, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde le débat Donald Trump-Joe Biden, on regarde la situation économique aux États-Unis ou on regarde les résultats d'NVIDIA ?
Ah, je pense qu'on regarde pas le débat. Je pense qu'on regarde pas du tout le débat. En fait, quand on est européen, oui, et effectivement, le sujet géopolitique et le fait que l'Europe soit un enfant des États-Unis au travers de l'OTAN, oui, on peut trembler sur nos fondamentaux. Effectivement, c'est pour ça qu'on regarde la différence entre Biden et Trump, mais alors certainement pas sur les sujets économiques où vraiment on relance la machine tout le temps en investissant à fond dans l'économie, dans l'intelligence, dans les nouvelles technologies, dans les connaissances, dans la recherche et développement. Et on ferait vraiment bien mieux de s'en inspirer en Europe plutôt que de réglementer, à mon avis. On a une super réglementation. Là, maintenant, il faudrait peut-être y aller à mettre du carburant dans le moteur. Et c'est pour ça que je suis absolument fasciné par l'économie américaine. C'est que cette manière de découverte des prix où, en fait, il y a une volatilité très importante sur certaines valeurs qui finissent par être des superstars boursières, mais c'est surtout avant tout des superstars d'intelligence. Et franchement, quand on voit ou Microsoft ou Nvidia ou Apple, c'est quand même une prime à l'intelligence humaine qui est absolument fabuleuse.
Et là, la séquence des derniers jours sur Nvidia, alors effectivement, on a beaucoup parlé de ces 430 milliards de dollars perdus en 3 jours. Il y a d'ailleurs une question est-ce que c'est une pause ou une respiration dans une progression? Est-ce que ça nous dit quelque chose de la tendance intelligence artificielle à court terme ou pas du tout, selon vous?
Je pense que pas du tout. C'est vraiment un micro-événement dans une lame de fond. Et franchement, on aurait adoré inventer ça, en tout cas, non, plutôt financer ça en Europe. Non, vraiment, ça, c'est vraiment un épiphénomène qui n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, non, vraiment, c'est une respiration, je peux appeler ça comme vous voulez, mais c'est...
Parce qu'il y a quand même des questionnements sur le sujet intelligence artificielle, de dire que effectivement la rentabilité au sein des entreprises n'est pas encore prouvée ou autre, et qu'effectivement beaucoup d'investissements, beaucoup d'achats, mais peut-être un peu moins de visibilité sur l'usage économique à long terme. Donc
moi aussi je vais faire une réponse
de politicienne.
La rentabilité des investissements aux États-Unis, est-ce qu'on arrive à les percevoir réellement sur très longue période? Parce que franchement, on se parlerait en 2003, on se dirait franchement, Internet ça sert à rien, personne n'ira faire ses courses sur Amazon, etc. Puis finalement, la rentabilité, c'est que tout le monde utilise Amazon parce que curieusement, c'est vachement plus pratique de faire ses courses sur téléphone. Et d'ailleurs, même le téléphone portable, franchement, combien de gens se sont dit au départ, qu'est-ce que c'est que ce dingue? notamment en Italie.
Oui, mais boursièrement, c'est les gagnants d'hier et ne sont pas les gagnants d'aujourd'hui.
Mais oui, mais sauf qu'en fait, tout ça pour dire que finalement, en dynamique, on s'en fiche un peu parce qu'il y aura toujours des gagnants. Et en fait, que ce soit une finalité ou un moyen pour arriver à autre chose, en fait, on a besoin de ces technologies pour progresser. Que ce soit pour l'apprentissage, enfin, en tout cas, si on regarde au niveau... Peut-être pas, je vais encore pas vous répondre, mais imaginons qu'on ne soit pas sur des résultats économiques, mais sur des résultats sociaux. Franchement, l'intelligence artificielle, c'est pas un outil absolument magistral de décloisonnement de l'information et de l'éducation ? Posez une question, vous avez exactement la réponse, et c'est une réponse qui est plutôt correcte. Enfin, c'est absolument prodigieux quand on y pense. Et cet état de décloisonnement de l'information et de l'éducation, sur une planète à 8 milliards d'êtres humains, et avec autant de disparités sociales, franchement, c'est plein d'espoir, non ?
Mais boursièrement.
Mais boursièrement.
Actuellement, à l'heure actuelle.
Boursièrement, à l'heure actuelle, si vous regardez le cours de Microsoft et le cours d'Apple, en tout cas, pour l'instant, le marché y croit et pense que ça va être un avantage compétitif très important.
Adrien Dumas, quand on lit qu'il peut y avoir un petit peu d'attente trop élevée ou de spéculation sur le titre Nvidia, vous partagez l'avis de Pierre Bismuth ou vous êtes un peu plus modéré sur le titre ?
Pour l'instant, à court terme, on a toujours une demande qui est supérieure à l'offre. Ils ont une contrainte sur leur nouvelle puce, le HB200, qui leur donne pas mal de visibilité pour la fin d'année. Quand on regarde froidement les publications des trois derniers trimestres, le niveau de la surprise a été à peu près le même. C'est-à-dire qu'on a vraiment un sujet entre l'offre et la demande. La deuxième chose, c'est quand même que en pourcentage du chiffre d'affaires, les quatre grands donneurs d'ordre, donc Apple, Meta, Google et Amazon, qui représentaient quasiment 90% des commandes il y a 6-8 mois, sont descendus à 60%. Donc il y a des nouveaux acheteurs, des nouveaux consommateurs de ces puces qui réfléchissent à comment utiliser cette puissance de calcul, que ce soit dans des industries. On a vu aussi des États acheter des puces pour réfléchir à l'intérêt de tout ça. Donc oui, on sent une extension du marché adressable et de l'utilisation de ces puissances de calcul. Donc à court terme, non, je vois pas de raison de s'inquiéter.
L'arrivée d'un grand concurrent.
Un des cas, c'était effectivement la montée de la concurrence. Bon, bah, pour l'instant, il y a pas de débat. Hein. Le rythme d'innovation d'Nvidia est bien supérieur à tous ses concurrents. Ils font 80% de marge brute quand même, hein, je rappelle. Donc ils ont les moyens d'investir pour continuer à garder cet avantage technologique. Et puis ce qu'on a peut-être un peu loupé, c'est qu'il y a 3 mois à peu près, ils ont fait une journée investisseur pour expliquer le mouvement vers la plateforme. L'objectif, c'est à terme quand même de donner à des développeurs, des fabricants de logiciels, des grands industriels, accès à cette puissance de calcul et à l'innovation.
Là, on parle de Blackwell.
Exactement. Ouais. Et donc, le passage d'un modèle de hardware à un modèle un peu plus software ou plateforme, ça peut être extrêmement créateur de valeur pour Nvidia. Donc, moi, je pense qu'il y a encore plein de ressorts de surprises potentielles sur ce titre. La valorisation est à peu près en ligne avec ce qu'elle était depuis 3 ans. On doit être à 26 ou 27 fois le PE. La volatilité à court terme, elle est liée à... On est en fin de trimestre, hein, et à des bouclements d'options. C'est un titre sur lequel il y a énormément d'options qui sont échangées. Il y a eu les chiffres de Micron qui sont sortis aujourd'hui, qui étaient quand même plutôt pas mauvais, hein, avec 80% de croissance dans la partie intelligence artificielle. Donc voilà, pour l'instant, ça nous semble être un cœur de portefeuille assez résilient.
Vincent Juvin, on va finir avec vous sur l'intelligence artificielle, tout simplement, votre vision sur la thématique.
Alors, en tant qu'économiste, j'arrive assez rapidement à ma capacité d'analyse de cette thématique. Néanmoins, par rapport à l'importance qu'elle peut prendre, notamment, enfin, on évoquait le passage du hardware plutôt sur la plateforme, mais et sur l'activité économique que ça peut générer. Ça, alors, nous, on l'aborde de deux manières. Alors, beaucoup se demandent, est-ce que ça va créer un choc de productivité et ça, on a du mal à le mesurer. De même, comme Pierre l'évoquait, est-ce que le téléphone a créé ce choc de productivité? Est-ce que l'Internet a créé ce choc de productivité? Il y a cette vieille expression qui dit, hein, finalement, la technologie est partout, sauf dans les chiffres de productivité. Donc, là, on ne sait pas. Par contre, et surtout aux États-Unis, aujourd'hui, l'intelligence artificielle suppose une capacité de calcul importante. Donc, on a investi des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dans des mainframes pour réaliser ces calculs. Donc ça, c'est déjà des gros investissements qui sont réalisés. et qui contribuent en cela au PIB. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on a des estimations plus hautes de potentiel de croissance aux États-Unis qu'en Europe. Les investissements sont surtout réalisés là-bas. Alors, il faudra voir avec la législation sur les données européennes s'il ne faut pas que, finalement, ce soit quelque part basé en Europe pour les données européennes à suivre. Au-delà de ça, si vous avez récemment acheté un hardware pour vous-même, vous noterez que, eh bien, il faut des nouveaux laptops pour pouvoir étudier chez Microsoft ou chez Apple ou chez les autres, pour avoir l'intelligence artificielle. Sur les téléphones aussi, ce n'est que la dernière génération, vous pouvez l'avoir. Donc il y a tout ce mouvement de nouveaux hardware qui va être nécessaire pour que nous, en tant que consommateurs de cette technologie, on y ait à proprement accès, si tant est que les règles européennes aussi nous donnent accès à ceci. Mon fils était il y a 15 ans, était triste, il me disait hier soir à la maison, papa, ce ne sera pas pour cette année qu'on l'aura sur nos téléphones. voilà. C'était plus important pour lui que pour moi, mais voilà, il y a quand même, en termes de vente de hardware, on voit qu'il y a pas mal de nouveaux hardware qui arrivent sur le marché et qui créent cette activité. Donc, sur l'IA et sur la thématique technologie de manière plus large, chez nous, c'est un sujet d'investissement qu'on conserve une surexposition dans les portefeuilles.
Au risque de ne pas me faire d'amis sur ce plateau, je vous pose la question, puisque j'ai entendu sur ce plateau cette question, c'est est-ce qu'il y a un risque métaverse avec l'intelligence artificielle ou un risque blockchain, grande thématique jouée sur les marchés et oubliée un an après ?
Je ne suis pas sûr qu'on peut tout à fait enterrer le métaverse. Moi, je veux
bien... finalement, ouais, c'est ça.
Je pense que ce qui se passe maintenant pourrait nous faire revenir un jour ce métaverse au galop.
D'accord.
Je ne suis vraiment pas futurologue, mais il manquait, à mon avis, un certain nombre d'éléments pour faire du métaverse quelque chose qui fonctionne. Intelligence artificielle, les nouveaux casques de réalité virtuelle pourraient bien faire de ce métaverse quelque chose qui, tout d'un coup, pourrait fonctionner. Je pense que, voilà, l'idée de départ était bonne. Elle était peut-être un peu en avance sur son temps, mais je pense que cette technologie pourrait, heureusement ou malheureusement, nous y amener un jour.
C'est une bonne manière de répondre, une manière un peu politique peut-être de répondre à la question posée. Merci beaucoup Vincent Juvin, ce stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Merci Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Et merci Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.